Bonsoir, c'est le temps du débat consacré ce samedi aux mesures de restriction anti-Covid. Toute l'ambiguïté des Français face aux mesures de restriction peut se résumer en un sondage, celui réalisé récemment par l'IFOP pour le JDD. 83% des personnes consultées se disaient prêtes à diminuer leur nombre de sorties et de loisirs, 72% affirmaient même qu'elles respecteraient un nouveau confinement, mais elles ne sont que 36% à faire confiance au gouvernement pour faire face efficacement au coronavirus. Une ambiguïté qui se traduit dans les contestations inédites à chaque nouvelle annonce de ville passant en état d'alerte maximale. À la peur et à la sidération qui avaient caractérisé les premiers jours de mars, et parmi une acceptation presque sans protestation du confinement strict, succède donc une période bien plus compliquée pour les pouvoirs publics. L'autorité politique et scientifique sont désormais contestées et chacune de leurs décisions débattues jusqu'aux prises de position les plus extrêmes, comme le projet annoncé cette semaine par l'adjointe à la mairie de Marseille, Samia Ghali, de créer un conseil scientifique attaché spécifiquement à la ville. Derrière le folklore toujours rejoué du diktat de Paris contre les régions, il y a la problématique bien réelle d'une approche qui s'est révélée très centralisée de la réponse au virus, mais aussi les craintes économiques qui augmentent et alimentent une lecture plus critique des mesures de restriction, la conséquence enfin d'une politique de santé publique qui s'est inventée au jour le jour, sans associer nécessairement les corps intermédiaires et encore moins les citoyens. Alors peut-on critiquer les mesures anti-Covid ? C'est la question que nous allons poser ce soir dans le temps du débat du samedi, à écouter en direct sur France Culture et quand vous le souhaitez sur franceculture.fr.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
Mon message ce soir tiendra en trois mots: transparence, prévisibilité et responsabilisation.
Le ministre de la Santé.
Je vous rappelle qu'il y a 15 jours,
qui a pris des décisions à l'emporte-pièce.
Nous avons classé Marseille
par des décisions idiotes prises par le ministre de la Santé. Voilà, nous on le refuse
en
bloc.
En zone d'alerte maximale.
On demande juste qu'on soit entendu. On a l'impression d'être les délaissés de la société, les boîtes de nuit.
Les scientifiques nous éclairent.
Ce que nous prévoit l'Institut Pasteur, c'est que on va doubler le nombre de patients en réanimation vers la fin du mois d'octobre.
Mais la décision, elle appartient aux politiques.
Il s'agit tout d'abord de la fermeture totale des bars et des restaurants. Nous détenons chacun de nous une part de la victoire.
Ambiance. Merci à Vanessa Nadjar pour ce montage qui met en relation les mots du ministre de la Santé et évidemment les réactions, notamment à Marseille, on les aura reconnues à l'accent. Olivier Borras, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur du Centre de Sociologie des Organisations, le CSO de Sciences Po Paris, et vous êtes le co-auteur de ce livre paru aux presses de Sciences Po, Covid-19, une crise organisationnelle, avec Henri Bergeron, Patrick Castel et François De Dieu, un livre qui justement interroge la possibilité de critiquer, mais on va dire plutôt du côté des élites, ou en tout cas de la prise de décision, les mesures qui ont été prises en réponse au Covid-19. Nous sommes aussi en liaison avec Hilaria Casilo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la vice-présidente de la Commission nationale du débat public, vous êtes aussi géographe, maîtresse de conférences et chercheuse au laboratoire Lab Urba. Et vos thèmes de recherche portent justement sur la participation citoyenne, notamment sur la production et la gestion participative de l'espace et des politiques publiques. Et donc, avec vous, on va discuter peut-être de l'autre côté, l'autre bout de la chaîne en quelque sorte, et qui est la question de la participation des citoyens. Et enfin, on est aussi en liaison avec Marie Gariazo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice adjointe du département opinion de l'IFOP, spécialisée dans les études qualitatives, donc, et co-autrice avec Jérôme Fourquet d'un livre qui est publié lui aussi très récemment, Au seuil, en immersion, enquête sur une société confinée. Alors je me tourne d'abord vers vous, virtuellement, Marie Gariazo, puisque vous êtes en liaison. Comment expliquer ce paradoxe apparent que je citais en introduction, des Français qui restent très majoritairement vigilants face au Covid, mais qui semblent accepter de moins en moins on va dire le magistère des autorités, des politiques ou des scientifiques pour les guider.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a changé de période, hein, comme vous l'évoquiez précédemment, et donc la peur qui était omniprésente, hein, lors du confinement en mars, et qui du coup a laissé assez peu de place en fait aux questions sur les restrictions des libertés individuelles, eh bien, elle est terminée, et donc on est rentré dans une nouvelle phase où, comme vous le disiez aussi, les inquiétudes en fait sanitaires entrent en tension avec les inquiétudes économiques, hein, liées aux conséquences économiques de la crise. Par ailleurs, ce qui est également compliqué, c'est qu'on est dans un contexte de très forte défiance, hein, par rapport à la parole gouvernementale, mais aussi par rapport à la parole scientifique, hein, puisque toute la controverse en fait scientifique qui n'en finit pas, je dirais, alimente aussi une défiance, hein, du côté de la population française. Par ailleurs, il y a quand même un hiatus, hein, puisque on le voit, comme le sondage aussi le rappelait, que dans l'adoption des gestes barrières ou dans le souhait de respecter les restrictions, les Français ne sont pas non plus en opposition avec les mesures prises, hein, par le gouvernement. Mais ce qui est surtout, à mon avis, très compliqué dans cette période et qui alimente quand même, hein, les oppositions de certains, c'est qu'il y a une forme de lassitude très forte, et puis il n'y a aucun cap temporel, hein, on n'a pas d'horizon fixé. Donc, ce qui aussi limite très fortement les projections, et on n'a pas non plus de cap décisionnel, enfin de cap gouvernemental clair, ce qui également alimente aussi des crispations.
Alors, la question de la temporalité, Olivier Borrez, elle est très importante dans votre ouvrage. On aura l'occasion d'en parler. Mais un mot quand même sur ce paradoxe apparent, cette nouvelle phase, nous dit Marie Gariazo, dans laquelle les Français veulent toujours bien respecter, puisqu'ils voient, voilà, ils voient bien la nécessité de respecter les gestes barrières et de respecter un certain nombre de contraintes. Et en même temps, il y a une résistance aux mesures venues d'en haut, pour le dire, avec les mots qu'on a entendus dans le petit montage, hein, en ouverture de cette émission.
Tout à fait. Je pense qu'il y aurait une erreur qu'on entend parfois, qui serait de comparer la situation actuelle à celle de mars-avril. On n'est pas du tout dans la même situation, ni du point de vue de la pandémie, ni du point de vue des mesures qui sont prises. Et autant quand le 16 mars au soir, Emmanuel Macron annonce un confinement pour 45 jours, dont on sait qu'il va être en fait un peu plus long, il fixe un cap. Il fixe un cap, il y a une menace qui est là, il y a une pandémie qui fait beaucoup de victimes, des hôpitaux qui sont saturés, donc il y a une urgence à agir. Il annonce une mesure forte, mais il la justifie au nom de cette menace. Et puis, il fixe un cap temporel et avec l'idée d'une mobilisation nationale collective pour venir à bout de cette menace. Là, aujourd'hui, on est dans une situation très différente. On n'a pas de cap, effectivement, comme ça vient d'être dit. On n'a pas d'horizon temporel. On a quelque chose, on a des décisions qui sont prises et qui peuvent changer tous les 15 jours, voire toutes les semaines. On ne sait pas très bien au nom de quoi non plus, enfin, des indicateurs sont donnés, mais finalement, il n'y a pas une perspective, il n'y a pas une anticipation des situations à venir dans les mois qui viennent, qui permettrait effectivement aux Français de se projeter.
Est-ce qu'elle serait possible, selon vous, cette anticipation? Parce que voilà, c'est quelque chose qu'on reproche beaucoup au gouvernement, de naviguer à vue, et en même temps, on a le sentiment aussi qu'il est difficile de faire autrement que de naviguer à vue face à une épidémie, voilà, dont l'évolution est difficilement anticipable.
Elle est difficilement anticipable. Il y a quand même un certain nombre d'éléments qui existent qui permettraient de tracer des perspectives. Et puis, on a l'exemple d'autres pays qui parviennent quand même à tenir un cap, à tenir une ligne et à ne pas en changer tous les 15 jours comme on fait là. C'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que finalement, on ne sait pas toujours très bien au nom de quoi ces décisions sont prises. Ou plutôt, on voit effectivement qu'il y a une priorité donnée à la lutte contre cette pandémie. Mais celle-ci n'est pas mise en balance avec d'autres enjeux, d'autres dimensions, qu'elles soient sanitaires, d'autres pathologies qui existent aussi, qui sont graves, ou des enjeux économiques, sociaux. Finalement, on a le sentiment que c'est seulement au nom de cette pandémie que l'on agit et avec, en regardant au jour le jour les indicateurs, sans mettre ça en perspective avec d'autres enjeux, d'autres questions sanitaires, économiques et sociales. Et c'est ça, je pense, qui rend la situation très, très confuse.
Ilaria Casilo, sur cette réaction finalement qui évolue, hein, des Français face aux mesures de restriction, avec cette conscience, je pense qu'on a tous, et que vient de souligner Olivier Borrez, qu'on n'est pas du tout aujourd'hui dans la même situation que celle dans laquelle on était en mars, et on a vu aussi que cette supposée indiscipline des Français finalement n'avait pas vraiment lieu d'être, en tout cas n'avait pas affecté le confinement, et aujourd'hui on leur reproche malgré tout leur manque de civisme. Bref, on voit qu'il y a une évolution dans la relation des Français, dans la façon de voir comment les Français réagissent à ces mesures de confinement. Quel est votre regard, vous, là-dessus?
Je pense que la crise sanitaire liée au Covid a montré quand même l'enjeu démocratique qu'il y a derrière la nécessité de penser un peu collectivement les urgences elles-mêmes, leur gestion, leur immédiateté aussi. Je veux dire, ça questionne quand même vraiment le setting, l'agencement démocratique de la gestion des crises. Donc, je pense que la manière dont les Français Français ont réceptionné les différentes mesures, a donné aussi à voir ce questionnement qu'il peut avoir. La phrase viendra dite tout à l'heure, on ne sait pas au nombre de quoi les décisions sont prises. Je pense que la plupart des Français se sont aussi questionnés sur les critères de certains choix, la manière plus ou moins transparente dont certaines décisions ont été prises. Donc je pense que ce que cette crise a révélé, c'est aussi la manière un peu une sorte de réflexe cognitif qui ont souvent les décideurs, surtout face aux crises ou aux catastrophes naturelles. On peut le voir aussi par rapport à la tempête qui vient de frapper très fortement les Alpes-Maritimes. Donc ils se questionnent justement par rapport à la manière dont les décisions sont prises. Et on a toujours ce réflexe cognitif qui consiste à dire on doit réagir. On a deux régimes d'action, celui de l'immédiateté, de responsiveness, réagir immédiatement, vite, ce qui est absolument légitime et juste de la part de politique. Et puis il y a aussi un temps long, celui de la responsabilité sur le long période qui doit questionner aussi d'où vient certaines choses, la manière dont telle pourrait être gérée autrement, la manière différente de la société qu'on a de s'y prendre. Et c'est pour ça aussi que pendant la première vague de Covid, on a vu que certaines mesures étaient contre-intuitives, celles sur les restrictions des libertés personnelles, parce que justement, elles appelaient à la superposition de ce régime d'action. D'un côté, il fallait réagir vite, mais de l'autre côté, on comprenait pas quelle était la logique un peu plus politique ou les raisons qui pouvaient y avoir derrière certains choix. Et donc, il y avait aussi une incompréhension et un manque d'acceptabilité de certains choix. Et donc, je pense que la manière dont ça a été géré précédemment pourrait aussi un peu aider, peut-être, à gérer autrement une crise majeure comme celle liée au Covid.
Oui, alors évidemment, la question de savoir si on apprend des crises, elle est importante et elle mériterait qu'on y consacre un petit peu de temps. Mais avant d'y arriver, je voulais vous demander, Marie Gariazo, vous qui suivez l'évolution de l'opinion, qui avez vraiment suivi tout au long du confinement et encore jusqu'à très récemment, la façon dont les Français réagissent finalement aux mesures qui sont prises par le gouvernement très tôt. Malgré tout, on dit qu'il y avait une unanimité, mais très tôt, il y a eu des critiques d'une forme d'infantilisation des Français, d'une gestion par la peur de l'épidémie. C'était une tribune dans Le Parisien encore récemment à ce sujet. Est-ce que c'est quelque chose qui est ressenti et qui transparaît dans les entretiens que vous pouvez avoir ou même dans les questionnaires que vous pouvez faire passer aux sondés dans le cadre de travail que vous menez à l'IFOP, Marie Gariazo?
En effet, il y a de plus en plus de gens qui mettent un peu en doute les mesures prises par le gouvernement, mais on peut pas forcément quantifier, ils sont pas forcément majoritaires, c'est-à-dire qu'ils font peut-être parler plus d'eux parce que on a été habitué pendant le confinement à une espèce de tatonie, en tout cas sur la restriction des libertés individuelles. Donc il faut peut-être faire un peu attention à l'ampleur qu'ils prennent, notamment dans la sphère médiatique. Et puis il va falloir voir aussi, parce que la peur et l'adhésion en fait aux mesures prises par le gouvernement, elle est aussi liée au nombre de décès. Et là, on est dans une petite période d'accalmie sur ce point-là. Il faudra voir après comment tout cela évolue. Ce que l'on sent en tout cas très fortement dans les études qu'on mène en ce moment, c'est qu'il y a une cacophonie en fait de la parole gouvernementale qui rend quasiment inaudible en fait les prises de position du gouvernement sur la gestion de la crise sanitaire, et notamment donc beaucoup de Français se font le relais de toutes ces demandes contradictoires avec l'impression que on ne ferme pas les métros mais on ferme les restaurants, on travaille en masque mais on va déjeuner au restaurant sans masque. Enfin, du coup, il y a quand même un doute sur l'efficacité sanitaire en fait des mesures prises, et on voit notamment le port du masque. Souvent, les Français nous disent qu'ils l'adoptent surtout par civisme, par crainte de la sanction, mais que le doute sur l'efficacité réelle existe. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort. Il y a autre chose, à mon avis, qui est important, et c'est qu'il va falloir faire attention à ce qu'on ait tiré quand même des enseignements de la première vague. Les Français sont assez quand même attentifs à ça, à l'idée que le système hospitalier n'explose pas trop rapidement. Et puis, il y a un dernier point que je voudrais aborder, c'est que cette crise, elle a révélé aussi la crise du jacobinisme à la française, et donc l'idée que les décisions seraient prises nationalement pour l'ensemble des territoires, sans prendre en compte les spécificités de ces derniers. Et c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé par exemple à Marseille, on s'est rendu compte que la décision se voulait régionalisée, mais en même temps elle est faite sans concertation avec les acteurs locaux et notamment les collectivités territoriales et les maires qui sont les premiers interlocuteurs des citoyens. Et donc c'est aussi ça qui alimente le rejet des mesures prises par le gouvernement.
Alors beaucoup de choses dans ce que vient de dire Marie Gariazo, mais j'aimerais vous entendre, Olivier Borras, sur la question de pouvoir tirer les enseignements, parce que ça a été dit à plusieurs reprises, et malheureusement je voudrais pas dire divulgâcher le contenu de votre livre, mais vous êtes assez sceptique sur les capacités, en tout cas telles que les choses sont organisées aujourd'hui, des organisations à tirer, notamment des pouvoirs publics, à tirer des enseignements des crises passées.
Oui, c'est un point qu'on développe dans l'ouvrage, à savoir qu'on a toujours beaucoup de mal à tirer des leçons des crises. À chaque fois, ils ont le même défaut, c'est qu'ils singularisent l'événement, donc ils l'isolent, ils le pensent séparément de tout le reste, comme un événement inédit, imprévisible, plus gros que prévu, plus rapide que prévu, qu'on ne pouvait pas anticiper, bref, ce qui explique une partie des défaillances. Et puis, on en tire quelques leçons limitées, mais on ne les met pas en perspective. Et donc, finalement, on n'en tire pas des leçons au sens où il s'agit de comme un phénomène suffisamment récurrent, qu'il soit d'origine naturelle, sanitaire, technologique ou autre, pour qu'on puisse quand même effectivement repérer des récurrences, des répétitions.
Mais est-ce que c'est un défaut aussi, selon vous, puisque le thème de cette émission, c'est peut-on critiquer les mesures anti-Covid ? On pourrait se dire qu'il y a une critique qui pourrait être portée aussi au plus haut sommet des institutions, ou en tout cas des agences ou de celles et ceux des administrations qui ont eu à gérer la situation. Et donc, cette difficulté à tirer des leçons, est-ce que ça tient justement à cette difficulté aussi à porter un esprit critique sur la façon dont on a mené les choses? Et par exemple, vous, quelles ont été les réactions quand vous êtes venu poser des questions, tout simplement, puisque c'est une enquête que vous menez,
alors,
Olivier Boraz?
Alors, deux choses différentes. Alors, quand on a posé des questions et quand on a conduit des entretiens, on a chaque fois eu la même réaction en fin d'entretien, à savoir que nos interlocuteurs, qu'ils soient médecins hospitaliers, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient pompiers, qu'ils soient directeur d'un exécutif régional, nous remercier. Ils nous remerciaient de l'occasion qu'on leur donnait de pouvoir réfléchir à ce qu'avait été leur expérience, à ce qu'avait été leur pratique, à ce qu'ils avaient pu mener, les difficultés qu'ils avaient rencontrées. Donc, le simple fait de mener l'entretien avec eux, déjà, était une source de connaissances et de réflexion. Et il s'agissait de gens qui étaient dans le feu de l'action. Donc, ces entretiens, on les a menés effectivement en mars, avril, mai, donc au cœur de l'action. Ils avaient besoin eux-mêmes de procéder à cette mise en retrait, cette réflexivité, comme on dit, pour réfléchir à ce qu'ils avaient mené, à ce qu'ils avaient fait et les leçons en tirer. Effectivement, la grande difficulté des retours d'expérience qui sont menés dans les organisations, c'est que souvent, en fait, on va essayer de préserver au maximum un statu quo. On va essayer de préserver un ordre existant. Donc, on va maintenir ces leçons dans un ordre existant. On va l'amender à la marge. Donc là, on pourrait imaginer que dans quelques temps, on réforme un petit peu le système des agences françaises. Mais on ne va pas aller au fond, on ne va pas toucher à des dysfonctionnements plus profonds parce qu'effectivement, ça remettra en cause un ordre établi et qu'il s'agit précisément de préserver cet ordre établi. Et c'est ce que font ces rapports.
Ilaria Casilo, sur cette question de l'infantilisation, de la gestion par la peur et donc d'une certaine façon d'un manque d'association des citoyens, vous êtes déjà intervenu, mais c'est vrai que il y a eu un discours qui a un peu disparu aujourd'hui, qui est un discours très guerrier au début, un lexique très guerrier employé par le président de la République notamment pour faire face à cette crise sanitaire. Et évidemment, on sait qu'en temps de guerre, on ne contredit pas le chef et on pose pas de questions. Est-ce que c'est un élément qui, selon vous, a joué dans cette difficulté manifeste à interroger au fur et à mesure la façon dont on répondait nécessairement à la crise sanitaire?
Oui, tout à fait. Je pense que si l'attitude du décideur vis-à-vis de cette crise a été légitime, elle reste néanmoins questionnable dans la mesure où on peut s'interroger aujourd'hui on peut quand même se poser la question de savoir peut-on gérer une urgence sanitaire ou pas en excluant la société de toute forme d'éclairage de la décision. Je pense que c'est ça la question. Il s'agit bien d'un éclairage, attention. Il ne s'agit pas que le citoyen décide du port du masque ou pas, des mesures plus ou moins techniques à prendre. Il s'agit vraiment de concerner les citoyens, les embarquer dans une décision et organiser au maximum qu'on peut l'éclairage de la société à plusieurs niveaux, des professionnels de la santé, pas que des citoyens, dans le sens de ceux qui ne sont pas impliqués ou qui n'ont pas été impliqués dans la gestion de la crise, mais vraiment les infirmières, les urgentistes, différents types de communautés divers et variés qui se sont organisés, qui ont mis en place des choses, des systèmes de solidarité, d'entraide, qui avaient un discours à produire ou des solutions à proposer autres et qui pourraient aussi fabriquer des niveaux d'acceptation différents des mesures prises. Donc je pense que effectivement, la posture à un moment donné des décideurs de dire il faut faire vite, peut se heurter, elle fait aussi à l'exigence d'aller loin, d'aller un peu plus loin en termes de qualité, de soutenabilité, de durabilité des mesures prises. Donc c'est toujours cette tension entre aller vite et aller loin, elle est toujours présente, surtout lorsqu'on est face à une crise ou à une catastrophe naturelle, encore une fois. Mais néanmoins, il est possible.
Il y a aussi la question, les questions de l'autorité, c'est-à-dire Marie Gariazo le disait tout à l'heure, il y a une question de remise en cause, un contexte général de remise en cause des autorités, qu'elles soient politiques ou scientifiques. Et là, on se demande où se loge l'autorité au cours de cette crise. Et encore une fois, c'est vrai que ce couple préfet, enfin le préfet qui donnait des instructions, l'État qui en donnait aussi, mais qui n'était pas toujours les mêmes que celles du préfet, le préfet qui était dans la relation avec les collectivités locales, on a vu que ça fonctionnait pas très bien, en tout cas qu'il y avait des contradictions. Et donc il y a aussi, quand on n'embarque pas les citoyens, manifestement, des questions de savoir où se loge l'autorité qui se pose, Ilaria Casilo.
Tout à fait, mais encore une fois, un certain type de compréhension, d'acceptabilité ou d'adhésion aux choix et mesures qui sont prises relève aussi un peu aussi de la manière plus ou moins transparente, claire, non cacophonique, justement non contradictoire, par laquelle les décisions sont prises. Lorsqu'on est face à un discours qui est clair, qui est transparent vis-à-vis à l'état des savoirs, aussi ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Voilà pourquoi on prend une décision, peut-être qu'elle n'est pas juste, mais voilà pourquoi on la prend, à la lumière de quels critères, eh bien ça aide, au moins ça, c'est pas que ça rassure, mais ça donne les clés de la compréhension, vous voyez. Et donc, la critique sociale qui peut s'activer derrière, elle est quand même un peu plus, comment dire, fructueuse, parce qu'elle part quand même de, elle vise à décortiquer des arguments d'un choix, pas le choix dont on ne sait pas pourquoi il a été pris, vous voyez. Et ces choses-là, il est clair que aide davantage à réceptionner un certain discours au choix qui peut être plus ou moins autoritaire. Mais si plus on est transparent, plus on est clair dans les critères de choix, plus la décision est plus compréhensible de la part des citoyens.
Olivier Borras, vous vouliez intervenir.
Oui, pour compléter ce qui vient d'être dit, avec ce que je suis en d'accord, totalement d'accord. Mais effectivement, la différence aussi entre la mois de mars et la situation actuelle, c'est qu'au mois de mars, quand on prend la décision de confiner, qui est une décision lourde de conséquences, on n'a pas idée encore des conséquences de cette décision. C'est qu'on ne sait pas effectivement quel effet elle va produire sur le plan économique, social ou sanitaire. Aujourd'hui, on sait, on connaît les effets. Donc, les décisions qui sont prises aujourd'hui, non seulement, effectivement, on s'interroge sur leurs fondements, sur les motivations de ces décisions, mais ce qui marque aussi, c'est le fait que on sait très bien que ces décisions vont avoir des conséquences qui ne seront pas négligeables. Et c'est précisément l'absence de mise en balance de ces conséquences avec les décisions que moi, je trouve troublant dans la situation actuelle, parce que on sait que ces décisions ne seront pas anodines.
Marie Gariazo, on parlait justement, c'est Ilaria Casilo qui parlait de la nécessaire transparence de ce qui mène à prendre telle ou telle décision. Il y a en ce moment, depuis quelque temps, une forme de débat sur les indicateurs qui permettent ou non de passer en zone d'alerte maximale ou non. On voit qu'en ce moment, voilà, il y a de plus en plus de villes qui passent en zone d'alerte maximale. Est-ce que c'est un débat qui remonte, vous, de vos enquêtes? Ce que je veux dire, c'est que c'est un débat qui est quand même assez technique. Voilà, est-ce qu'il faut regarder le nombre d'incidences, le nombre de morts, le nombre de personnes en réanimation? Et est-ce que c'est un débat dont se saisissent, selon vous, les Français, la population, ou est-ce que ça émerge autrement, cette remise en cause de la transparence?
Non, alors je dirais pas qu'ils sont. Je pense que enfin, en tout cas dans les études que nous menons, les Français n'arrivent pas à mesurer très très de façon très fine ces indicateurs qui restent quand même très techniques. Mais ce qu'il y a derrière, c'est l'idée qu'on évoquait de travailler en concertation avec tous les acteurs. C'est-à-dire que tout ce qui donne l'impression quand même d'une décision prise de Paris est quand même souvent très mal reçu dans un contexte où, encore une fois, je me répète, mais la défiance vis-à-vis des élites est quand même très forte. Et donc, du coup, cette crise, elle a réveillé aussi l'importance d'agir au plus près des territoires, en lien avec notamment les maires, parce que le préfet, la figure du préfet est très lointaine en fait des citoyens, son rôle est souvent assez méconnu, mais donc c'est vraiment les maires, peut-être aussi les présidents de région qui peuvent jouer un rôle en la matière, mais en tout cas il faut que la décision donne l'impression, ou en tout cas soit prise en concertation avec ces acteurs locaux. Et ce qui est vrai, pour rebondir sur ce qui a été dit avant, c'est que le registre de la peur, la thématique martiale vraiment engagé par le gouvernement lors de la première phase ne peut plus du tout être audible aujourd'hui. Elle a déjà assez peu fonctionné finalement pour le gouvernement, c'est-à-dire qu'elle a fonctionné dans les faits, tout le monde a accepté de façon très rapide, efficace, le confinement, mais on s'est rendu compte que Emmanuel Macron en chef de guerre, alors que le pays n'arrivait pas à faire face et que surtout cette crise révélait un peu une faillite de nos États, on était une des plus grandes puissances mondiales avec un système de soins réputé extrêmement performant, puis on se trouvait incapable d'équiper nos soignants. Donc ce gouvernement par la peur ne peut plus fonctionner aujourd'hui. Et on le voit bien d'ailleurs dans les prises de parole d'Emmanuel Macron, qu'il essaye de en tout cas d'inverser cette tendance et de plutôt réasseoir une certaine confiance. Mais ça nécessite, comme cela a été évoqué, à la fois de la transparence, beaucoup de concertation avec les acteurs au niveau local et surtout une compréhension aussi de la façon dont les citoyens vivent cette mise en tension entre inquiétude sanitaire et inquiétude économique et sociale, avec tout ce qu'on entend sur les fermetures, les pertes d'emplois, l'augmentation de la pauvreté. Ça, c'est extrêmement fort dans nos enquêtes. Et cette inquiétude-là est extrêmement élevée, la peur d'un déclassement personnel suite aux mesures qui sont prises.
Peut-on critiquer les mesures anti-Covid? C'est la question que nous posons ce soir dans le temps du débat du samedi avec nos trois invités, Marie Gariazo de l'IFOP qu'on vient d'entendre, Ilaria Casilo, qui est la vice-présidente de la Commission nationale du débat public, et ici en studio, le sociologue Olivier Boraz.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
Il faut tenir compte des situations locales. Et par exemple, vous parlez des piscines. C'est un exemple parmi d'autres, mais qui a montré que certaines piscines pouvaient rester ouvertes et d'autres pouvaient fermer, et qu'il y avait une territorialisation qui pouvait être différente. Certaines mesures sont d'application automatique. Quand on parle de la fermeture des bars à 22h dans les zones d'alerte renforcée, la fermeture des bars et le protocole sanitaire renforcé dans les restaurants, ça va concerner toutes les zones d'alerte maximale. La concertation, elle est aussi importante pour définir avec les élus locaux le périmètre précis du territoire qui est concerné. C'est pas simple. Il faut regarder commune par commune. Il faut regarder si la population qui habite telle ville est amenée à voyager dans la ville d'à côté. Donc il faut être capable d'avoir des mesures suffisamment englobantes pour être efficaces sur un territoire, mais sans être excessives pour ne pas pénaliser inutilement des commerçants et des usagers de communes qui sont moins soumises à la pression épidémique. Quand on parle de concertation et d'application, c'est que les arrêtés qui sont pris par les préfets et qui portent application des mesures que j'ai annoncées sont définis, écrits, en lien avec les élus. Après, vous avez des élus, vous savez, on en a rencontré beaucoup, le Premier ministre en a rencontré beaucoup, j'étais présent avec lui. Beaucoup comprennent, la plupart comprennent, la très grande majorité comprennent, accompagnent les mesures, et vont même parfois au-delà en prenant localement des mesures pour freiner davantage la diffusion du virus. Pour d'autres, il y a un travail d'explication qu'il faut reprendre régulièrement. Et en définitive, comme l'a indiqué à juste titre le Premier ministre, l'État est garant de la sécurité et de la santé des Français. Et lorsqu'un accord ne peut pas être trouvé, que ce soit sur des discussions, sur des chiffres ou la nature du virus qui serait moins dangereux ici ou là, ou que ce soit sur des questions plus cohérente de capacité de la population à accueillir telle ou telle mesure, eh bien l'État prend ses responsabilités.
Voilà le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans son point qui est désormais de nouveau hebdomadaire le jeudi et qui évoquait l'importance d'approcher la question de manière un peu fine. Olivier Boraz, il a été décidé au début, quand on a la décision du confinement a été prise, qui encore une fois est une décision qui est tout à fait inédite, hein, qui n'avait pas été prévue, il a été décidé de la faire porter sur tout le territoire et pas de façon locale, dans les endroits qui étaient plus ou moins touchés par l'épidémie de Covid-19. Or, dans votre ouvrage, hein, Covid-19, une crise organisationnelle, vous dites bien que voilà, c'était pas forcément la décision la plus logique. Elle a été prise. Alors, il y a toujours le fameux jacobinisme français, mais qu'est-ce qui a décidé de prendre cette décision et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on entend que le gouvernement essaye d'affiner un petit peu les choses et pour cause, et puisqu'il y a des réticences locales qui émergent, des critiques qui émergent localement des mesures anti-Covid.
Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Alors, d'abord, effectivement, il faut bien se mettre en tête que la décision qui est prise, de fait, le 12 mars, même s'il a annoncé le 16 mars, mais la décision est prise le 12 mars de confiner, elle est prise dans un moment de... Alors, les élites actuelles, bon, on parle de sidération, nous on parle de panique, mais il y a clairement entre le 10 et le 12 mars la prise de conscience que la fameuse vague que décrivent les modèles est là, et qu'elle est là pas parce que effectivement les modèles la décrivent, mais parce que des hôpitaux remontent des signaux très inquiétants, que ce soit des hôpitaux parisiens ou du Grand Est, qui sont face à un afflux massif de patients en état très grave. Et c'est cet afflux massif qui va donner du crédit en fait à ces courbes et qui va effectivement faire prendre conscience aux décideurs et aux experts qu'il y a une menace qui est là. Donc il y a ce phénomène de panique et qui va donc conduire cette décision effectivement totalement inédite, qui est la décision du confinement, qui n'est prévue dans aucun plan, qui n'a jamais été testée, dont on ne connaît pas à l'époque les effets, les conséquences.
C'est-à-dire qu'elle avait été prise en Chine et en Italie quand même avant la France.
Tout à fait, mais là aussi en Italie, je pense que c'était quelque chose qui avait été pris comme ça sur le fait, je dirais, mais qui n'avait pas été pensé. Et en tout cas, en France, effectivement, pour avoir étudié tous les plans qui existent en matière de pandémie grippale, variole et autres, il n'a jamais été envisagé de confiner tout un pays. Or là, effectivement, on prend cette décision, sans connaître les conséquences. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas, à ce moment-là, en Chine ou en Italie, quels ont été les effets de la décision. Et effectivement, à ça s'ajoute le fait que, dans ce moment de panique, quand cette décision est prise, elle est prise de façon uniforme, avec l'idée qu'effectivement, en France, il est totalement impensable, à ce moment-là en tout cas, de rompre l'égalité républicaine en appliquant de façon différentielle, finalement, un confinement dans certaines régions et pas dans d'autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur notre système où on essaie effectivement d'être dans quelque chose de le plus fin. En même temps, on a aussi beaucoup de remontées de terrain qui font état d'incompréhension de certains territoires, qui disent pourquoi nous, effectivement, sommes exposés à telle mesure et pas d'autres territoires. Et donc, paradoxalement, on a parfois le sentiment que de terrain remonte une demande d'uniformité à nouveau, pour qu'au moins ces choses soient claires. C'est-à-dire que s'il y a une mesure restrictive dans les bars, tout le monde y passe, et pas uniquement des grandes villes ou certains territoires qui seraient plus exposés que d'autres.
Oui, en même temps, on voit aussi que de plus en plus les Français font jouer leur sens commun et remettent en question des mesures où on leur dit les restaurants ça va, mais pas les bars. Pourquoi les restaurants ça va, pas les bars? Il faut mettre son masque tout le temps, même la nuit, dans une rue déserte. Donc voilà, donc on voit qu'il y a quand même une acceptation moins évidente et des remises en cause plus systématiques. En tout cas, un esprit critique qui s'exerce peut-être de façon un peu plus forte aujourd'hui. Hilaria Casilo, alors je rappelle que vous êtes la vice-présidente de la Commission nationale du débat public. Vous n'avez pas été encore chargée, je ne crois pas en tout cas, d'organiser des débats publics sur les mesures qui ont été prises contre le Covid. Mais j'imagine malgré tout qu'en sillonnant la France, vous en discutez, vous rencontrez les choses. Alors cette remontée de terrain, vous, et sur cette question de la centralité, de la centralisation de la décision, comment est-ce que vous avez le sentiment que c'est vécu et comment est-ce qu'on pourrait faire pour que... Évidemment, ça ne soit pas un enjeu de tension quand il s'agit de prendre des mesures, en tout cas des décisions de santé publique.
Oui, tout à fait. Je pense que la phrase qui a été dite dans l'extrait tout à l'heure du ministre de la Santé est très intéressante. Il disait « la concertation n'est pas simple, néanmoins, elle est nécessaire et possible. Elle est nécessaire pour que des choix soient plus durables, des mesures plus soutenables, plus acceptées. Elle est aussi possible parce que il y a des manières, des espaces, des instances qui doivent permettre, notamment dans cette période de gestion de crise, d'avoir des moments de concertation, d'aller-retour peut-être plus rapide, plus intensif, plus rythmé, plus cadencé, qui permettent justement une identification partagée, donc plus légitime, des meilleures qualités, un peu des solutions possibles. Ce qui démontre aussi que, en fait, si le risque, et plusieurs études le démontrent, est une construction sociale, la réponse au risque l'est aussi. C'est une élaboration collective. Donc, on voit sur le terrain, par les plusieurs débats que la Commission nationale du débat public mène, qu'il est possible d'associer, intégrer à la décision, l'identification de solutions des acteurs à plusieurs niveaux, à plusieurs échelons administratifs. Cela requiert de temps, et c'est vrai que quand on est face à une crise de fond, des fois on est dans l'immédiateté, donc il faut faire vite, mais néanmoins, il est possible, il est nécessaire, encore une fois, pour la solidité de certains choix, de concerter le plus possible les solutions et les réponses mises en place.
Marie Gariazzo, dans l'introduction de cette émission, je disais de façon un peu provocante qu'il y a un peu de folklore dans l'opposition entre notamment Paris et Marseille, tel qu'on le voit se mettre en place déjà très tôt, d'ailleurs avec la personnalité du professeur Raoult, évidemment. Mais il y a derrière cet aspect un peu folklorique quelque chose de bien réel, qui a un contexte général du débat public qui est marqué par cette défiance qui passe aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, mais qui est une défiance qui passe aussi, on va dire, entre Paris et le reste de la France.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que, déjà pour rebondir sur ce qui a été dit, nous aussi on ressent les mêmes remontées terrain, c'est-à-dire qu'il y a toute cette ambiguïté. À la fois on attend une territorialisation en fait de la prise en charge au plus près en fait de enfin voilà, une sorte de circuit court hein, de la décision pour être le plus efficace possible. Et d'un autre côté, c'est vrai que comme on se compare beaucoup en France et qu'on est quand même dans un aspect très individualisé, une société très individualisée, ça ajoute de la cacophonie, c'est-à-dire pourquoi moi et pas celui d'à côté, pourquoi la frontière communale définit deux types de mesures différentes. Donc c'est vrai que c'est quand même très compliqué pour le gouvernement. Ce qu'on note, pour rebondir sur votre question, c'est que cette crise, elle a vraiment accentué et révélé hein, toutes les fractures qui existaient auparavant, et notamment cette fracture, alors je ne sais pas si c'est une fracture territoriale, mais plutôt une fracture entre le peuple et les élites, la France d'en bas, la France d'en haut, parce que ce qui se joue...
Ce que Jérôme Fourquet appelle l'archipélisation de la France.
Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que au tout début de la crise, on s'est dit peut-être que cette crise va enfin permettre de colmater certaines fractures françaises, parce qu'on est tous confrontés à la même épreuve collective. Et puis finalement, on s'est très vite rendu compte que l'épreuve n'était absolument pas vécue de la même façon partout, auprès de toutes les catégories de population, et que le vivre ensemble était plutôt mis à mal hein, par cette crise que renforcé. Et donc du coup, on retrouve hein, cette polarisation très forte, en effet, entre Paris, la province, entre la France d'en haut, la France d'en bas, et c'est ça qui alimente hein, aussi cette fameuse crise un peu du jacobinisme qu'on évoquait tout à l'heure. Pour donner un exemple typique, en tout cas, qui a été très mal vécu, c'était la fermeture des plages, par exemple, pendant le confinement, avec l'impression qu'on décidait de Paris de fermer des territoires qui étaient quand même pourtant très vastes, dans lesquels on comprenait absolument pas comment on pouvait davantage se contaminer qu'ailleurs, et on aurait souhaité en tout cas que les élus locaux soient concertés et soient capables de peser aussi sur les décisions prises. Donc je pense que pour revenir sur cette concertation, non seulement elle est nécessaire et elle est très importante pour les Français, et elle c'est aussi un moyen de ramener un petit peu de confiance. Je dis pas que ça va marcher à tous les coups, mais quand on voit les maires de certaines grandes villes dire je comprends pourquoi nous passons en zone d'alerte maximale, ça tait un petit peu aussi un certain nombre de contestations au niveau local, même si on le voit, hein, il y a de toute façon, dans cette défiance qu'on évoque, il y a auprès d'une large partie de la population, enfin large, il faudrait qu'on quantifie, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se diffuse dans l'opinion, c'est-à-dire qu'on remet à peu près systématiquement en cause hein, ce qu'on nous présente comme restriction, comme mesure.
Comme mesure obligatoire, évidemment. Mais c'est vrai que ce discours d'autorité, Olivier Borras, il s'est tenu dès le début du confinement de la part du gouvernement. Et donc, forcément, la réaction aujourd'hui est de remettre un peu systématiquement en cause cette parole d'autorité. Mais on peut se demander aussi si la critique à chaud, finalement, est vraiment nécessaire. Est-ce qu'il n'y a pas un temps pour tout, pour le dire de façon un peu triviale, un temps et pour agir, pour obéir, et un temps pour la critique? Vous soulignez l'importance de ces deux temporalités, finalement, de l'urgence et du temps long dans votre livre. Donc, vous pourrez vous dire, un temps pour tout, Olivier Borras.
Oui, un temps pour tout, absolument. Alors, en l'occurrence, cet ouvrage, il n'est pas critique. Il ne se veut pas critique, en tout cas. Voilà. Il se veut questionneur. C'est-à-dire que nous posons des questions, nous marquons des étonnements, comme par exemple la question du confinement. C'est-à-dire comment en arrive-t-on à prendre une décision qui n'a jamais été planifié, pensé, testé. Enfin, c'est moi qui travaille depuis des années sur la manière dont on se prépare à gérer des crises, j'étais le premier surpris par cette option. Donc on soulève des questions comme celle-là et puis on apporte des hypothèses explicatives pour essayer effectivement de comprendre. Mais
alors par exemple, qu'est-ce qui a mené à cette décision du confinement? Est-ce que c'est parce que c'est pris par quelques personnes dans leur coin en quelque sorte, ou est-ce que c'est quand même informé par l'esprit critique cette prise de décision? Est-ce que c'est une réaction par la panique, c'est le terme que vous avez employé tout à l'heure?
Alors je pense qu'il y a plusieurs dimensions. En fait, il y a une première dimension en fait qui est une réaction très tardive. Alors là aussi, il ne s'agit pas de pointer le doigt, d'accuser, mais clairement, certains, parmi les personnes que nous rencontrons actuellement, parce que nous continuons nos enquêtes, certains dans les ministères, par exemple, s'étonnent que dès le mois de janvier, on n'ait pas activé le plan pandémie grippale et qu'on n'ait pas activé la fameuse cellule interministérielle de crise, qui est un peu le cœur du dispositif français de gestion de crise. Ça n'a pas été fait pour des raisons qui restent à élucider. On a des hypothèses, mais bon, ça reste à élucider. Mais du coup, l'absence de gréement, enfin l'absence d'activation, pardon, de ce plan, de cette cellule, fait qu'on n'a pas pu mettre en place des mesures d'anticipation, commencer à se préparer, commencer effectivement à essayer de mesurer le risque. Et donc le 10 mars, on se trouve brutalement face à la réalisation que la vague, une fois de plus, pour reprendre la métaphore, est là, qu'elle va déferler et qu'il faut agir dans le genre. Donc il y a une première condition qui est que finalement on a tardé à agir. Deuxième condition, c'est Emmanuel Macron, Édouard Philippe marquent assez vite une forme de méfiance, voire de défiance par rapport aux administrations en charge de la gestion de crise d'une part et en charge de l'expertise sanitaire de l'autre. Et donc souhaitent ne pas s'en tenir à ces organisations et donc vont créer un dispositif ad hoc qui est le fameux conseil scientifique. Et en fait, c'est de ce conseil scientifique que va émerger l'option du confinement de la part d'experts qui ont pu éventuellement voir ce type de solution adoptée dans d'autres pays, mais qui vont effectivement la présenter comme étant la seule solution possible, pour citer les termes du professeur Delfrécy. Une fois de plus, si on n'avait pas créé le conseil scientifique, si la gestion de la crise avait été entre les mains de, par exemple, de Santé publique France, ou de la DGS, ou du Haut Conseil Santé publique France, il n'est pas certain que cette solution aurait...
La DGS, pardon, la Direction Générale de la Santé.
Excusez-moi. Oui, donc, si on avait effectivement laissé la gestion de la crise exclusivement entre les mains effectivement des organisations qui étaient là pour ça et qui n'avaient pas justement envisagé cette hypothèse de cette solution, il n'est pas certain effectivement qu'on ait opté pour cette solution. Donc là aussi, il y a eu un choix politique de créer un conseil scientifique à part, et c'est de là qu'est émergée cette solution qui a été prise en dépit de tout ce qui avait été anticipé jusque-là.
Et là, il y a quasi la même question. Est-ce qu'il n'y a pas un temps pour tout? Vous soulignez l'importance d'associer les citoyens, alors c'est pas forcément de dire qu'ils sont nécessairement critiques des décisions qui sont prises par les pouvoirs publics, mais voilà, est-ce que ce moment d'urgence c'est vraiment un moment où on n'a pas besoin finalement, est-ce que c'est pas plus efficace tout simplement, je pose la question pareil de façon assez brutale, est-ce que c'est pas plus efficace tout simplement d'avoir un chef qui décide et informé évidemment par les scientifiques, mais voilà, et qui ensuite fait redescendre la décision auprès de la population?
Je ne sais pas, parce que cela reviendrait quand même à dire que face à certaines situations, des catastrophes, de quelle nature qu'elles soient, elles finissent par installer un régime d'urgence dans lequel et pendant lequel seul compte la capacité du décideur à réagir vite sur la base des données technoscientifiques, et la société, elle, n'a qu'à suivre et obéir et s'adapter. Or, il me semble quand même que ce type d'approche repose quand même sur deux simplifications majeures. La première consiste à dire à traiter matériellement les citoyens comme des simples récepteurs de politique ou de consignes ou des mesures à respecter. Et la deuxième simplification consiste aussi à considérer que tous les récepteurs s'équivalent, c'est-à-dire que la particularité des sociétés, leur degré d'implication, de démocratisation ou de marginalité dans la décision politique, leur niveau d'information, de connaissance, leur droit à être informé, tout ça, ces éléments ne sont pas pris en compte dans la mise en place de réponses en crise. Or, on sait qu'il y a des sociétés, des communautés qui savent réagir, qui peuvent aussi apporter des solutions, des réactions, des manières de s'organiser. Et donc, je pense que ces deux simplifications expliquent aussi pourquoi le décideur a toujours cette tendance à dire que, en fait, aller se tourner, être un peu plus à l'écoute de la société, finalement, il n'y a pas de valeur ajoutée. En revanche, ça montre aussi un peu les limites. On les a vues, on l'a testé. On l'a vu aussi là où on a vu des expériences où il y a une gestion plus partagée de la crise. On voit que, en fait, certaines réponses, c'est celles qui sont moins partagées, plus descendantes, en perte d'efficacité, sont moins efficaces et aussi moins de qualité ou des fois aussi moins crédibles. Donc je pense qu'il ne faut pas penser qu'un régime d'urgence, il est impossible et il n'est même pas envisageable de se tourner, d'avoir un éclairage citoyen. c'est certes plus compliqué. Cela ne signifie pas encore une fois que cet éclairage sera en place à la décision, mais écarter complètement la parole citoyenne serait une erreur. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un exemple qui est très parlant. Ce titre, vous voyez un peu le débat qui a eu lieu sur, à un moment donné, on avait envisagé des mesures de confinement qui visaient un public particulier, en particulier les personnes les plus âgées. Et alors, tout un débat s'est installé dans la sphère médiatique qui a vraiment un vrai débat sur la faisabilité de point de vue du droit, mais de point de vue aussi des droits ou de l'éthique de cette capacité, enfin de cette solution, qui a été finalement écartée. Mais j'ai trouvé très intéressant ce débat qui s'installe. C'est une forme de débat public qui a eu lieu et qui a aussi apporté des choses, des éléments d'éclairage à la société de manière large, mais aussi aux décideurs. Donc il y a des débats, comment dire, des choses qui circulent, qui se font déjà, qui ont leur, déjà montré, je veux dire, leur capacité, leur niveau élevé aussi de réflexivité. Donc encore une fois, je pense que c'est possible. Il ne faut pas s'imaginer des grosses consultations, des référendums pour chaque mesure que le gouvernement doit prendre. Bien évidemment, c'est pas ça. Mais une attention, une écoute plus poussée et aussi une confiance peut-être dans la capacité de la société à répondre, à s'organiser aussi, je pense que ça ferait gagner en efficacité les mesures mises en place.
Alors on arrive tout au bout de cette émission consacrée aux mesures anti-Covid et à la capacité ou non de critiquer ces mesures. On ne peut pas arriver au bout sans mentionner un élément, évidemment, de la situation, de cette discussion nationale, de l'état, du débat public aujourd'hui, et qui est la question, évidemment, du populisme et du complotisme qui ont émergé aussi en cette période. Alors, c'est vrai que le mouvement anti-masque, par exemple, en France, n'est pas très développé, Marie Gariazo, mais on a vu récemment, enfin, il y a une étude qui est sortie de la Fondation Jean Jaurès et de Conspiracy Watch qui a suscité un certain nombre de critiques. C'était à la fin mars, voilà, je retrouve la date, qui assimilait finalement toute critique des mesures anti-Covid à du complotisme. Et est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui aussi une difficulté dans le débat public à entendre des paroles comme celle-ci, des paroles qui sont tout simplement en dissonance avec les décisions qui sont prises soit par les autorités scientifiques, soit par le gouvernement, soit par le gouvernement?
Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on regarde le mouvement anti-masque ou le mouvement anti-vaccin en France aujourd'hui, si on vient déjà sur le mouvement anti-masque, il est beaucoup moins important en nombre que dans un pays voisin comme l'Allemagne, par exemple. Enfin, il est moins mobilisé, en tout cas, disons, dans la rue, parce qu'il est assez quand même répandu sur les réseaux sociaux. Mais finalement, il est assez peu visible dans l'espace public. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça regroupe toute une nébuleuse de personnes d'horizons assez différents. Et en fait, ça fait un peu exploser justement les lignes traditionnelles de ceux qu'on regroupe sur le terme de complotistes, qui sont plutôt, si je vais très vite, des électeurs du Rassemblement National et plutôt issus des catégories socioprofessionnelles populaires. Là, on voit, et c'est ça qui est assez troublant, en fait, notamment dans les études qualitatives qu'on peut mener, le fait de reprendre un peu à son compte aussi ce qu'on peut trouver chez certains complotistes va toucher des catégories de population de plus en plus variées, différentes. Et ça, c'est, de notre point de vue, un signal vraiment important. Il serait en effet contre-productif de mettre ces gens trop rapidement dans des cases, en fait, parce qu'en effet, on voit bien que, notamment sur les masques, même auprès des gens qui les portent, ils font preuve du plus grand civisme, la remise en question, elle va au-delà de l'efficacité sanitaire, elle vient sur le registre de derrière l'État essaye de nous séparer, de nous diviser, de tuer toute revendication collective. Voilà, et ça, on le voit aujourd'hui dans le discours de personnes qui n'adhéraient jamais auparavant à des thèses complotistes, quelles qu'elles soient. Donc c'est important d'avoir à l'esprit que cette prise de distance avec la parole politique est extrêmement importante et qu'il faut, trouver les moyens d'y répondre
évidemment. Merci beaucoup Marie Gariazo. Je rappelle, En immersion, enquête sur une société confinée, c'est aux éditions du Seuil. Merci aussi à vous et Hilaria Casilo d'avoir participé à cette émission. Et merci Olivier Borras, Covid-19, une crise organisationnelle, celui que vous avez coécrit et qui vient d'être publié aux presses de Sciences Po. À la réalisation ce soir, c'était Vanessa Nadjar. À la prise de son, Pierre Monteil. Merci à Sam Boutata pour sa précieuse ambitieuse collaboration. Lundi, dans le temps du débat, Emmanuel Laurentin posera la question budget. L'argent est-il devenu magique? Voilà, une bonne question posée par Emmanuel Laurentin. Mais avant cela, le prochain rendez-vous avec un magazine d'actualité, c'est évidemment demain à 11h, l'Esprit public. Et Béni Aubry sera en direct des rendez-vous de l'histoire de Blois avec l'économiste Julia Cagé, la journaliste Christine Ockrent, Gérard Courtois et l'historien et producteur France Culture, évidemment, Jean-Noël Jeannenet. Deux questions, l'élection présidentielle, une passion française, Covid-19, évidemment on en parle aussi, la guerre des récits, dernière étape, point d'interrogation. Excellent week-end à tous à l'écoute de France Culture. Tout de suite, on retrouve Hervé Gardette, politique.